Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées jaillissent, les voix se rencontrent et les micros prennent l'air. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis le cœur du parc de l'hôpital psychiatrique de Malévo jusqu'à 16h30 en votre compagnie ainsi que celle de nos invités du jour. Bonjour, on a Pius, on a Carlos, on a Étienne, on a Flore, on a Suzanne, on a Néusa et on a Eliane et on a aussi une ancienne habituée qui venait, il y a Elodie et on a Sophie. Bonjour messieurs, dames, ça fait plaisir de vous retrouver et à la technique on a Julien Morand. Ensemble nous allons explorer les thèmes choisis par nos participants et partir à la découverte du jardin permacole aux côtés de Guillaume Mudry et des bénéficiaires du projet. Nous découvrirons ce lieu unique où la nature et les liens humains poussent main dans la main. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, l'aventure commence maintenant. Bienvenue à Suzanne. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver ensemble autour de cette table. Bienvenue. Comment vous allez ?
Je vais bien. Je suis enfin sortie du trou dans lequel on m'a mis.
Alors, on aura l'occasion de revenir avec voilà. Un thème que vous nous avez proposé dans un petit instant, mais ça fait plaisir de vous retrouver. Flore, vous avez proposé aujourd'hui un thème qui est quand même assez d'actualité. Hein. Comment accepter l'indépendance de nos enfants ? Pour quelles raisons et qu'est-ce que vous avez envie de dire pour lancer les échanges ?
Alors déjà, bonjour à tous. Parce que je suis moi-même maman, j'ai deux garçons de 15 et 19 ans et j'ai compris assez vite qu'ils ne m'appartenaient pas. J'ai le rôle d'éducatrice, j'ai un rôle de protectrice, mais surtout le rôle de les amener à être des adultes et des adultes qui se prennent en charge. Donc c'est important que petit à petit, ils prennent leur indépendance. Et bien que des fois, on ait envie de les garder tout contre nous, tout le temps, non, ils ne nous appartiennent pas. Et leur accorder de l'indépendance, c'est tout simplement leur apprendre à être adultes.
Alors, merci déjà pour lancer le débat. Déjà, autour de la table, est-ce qu'on a des parents ? Ouais, levez voir un petit peu la main. On va faire un peu à la Landsgemeinde. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parents autour de la table. Comment vous avez envie de réagir après cette première échange sur finalement comment arriver à laisser cette indépendance à nos enfants qui grandissent ? Sophie, on vous écoute.
Alors, moi, je dois apprendre maintenant de lâcher prise. Je suis en train d'apprendre à lâcher prise malgré leur âge. 27 et 32 ans, et un petit-fils de 4 ans et demi. Parce que je ne lâche pas prise sur ça, j'arrive pas encore, hein, malgré voilà, le vécu que j'ai. Alors je dois apprendre, et j'apprends maintenant à lâcher prise, et c'est à 53 ans que j'apprends à lâcher prise sur la vie de mes enfants.
Ouais, mais quand vous dites lâcher prise, ce serait par rapport à quoi ? Est-ce qu'il y a des choses ?
Laisser vivre, en fait.
Les laisser
faire leur vie. Pas toujours demander, vous n'êtes pas, voilà, les laisser partir. Enfin, j'ai pas laissé partir mes enfants. J'ai encore besoin et là, je apprends maintenant à lâcher prise et à dire aussi non, à dire oui, à dire non à mes enfants.
Vous avez raison, c'est pas évident. Hein. On n'est pas parents. Hein. C'est pas inné d'être parents. Hein. On a des modèles, c'est déjà ceux qu'on a eus, hein, des modèles de nos propres parents. Et puis avec cette envie de se dire, bah, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de dire, ah, mais jamais je dirais ça. Des phrases que des parents pouvaient nous dire. Puis dire, non, mais moi, en tant que parent, jamais j'aurais ces phrases-là. Et puis finalement, on apprend à devenir parent avec l'expérience. Suzanne.
Eh bien, moi, mon fils de bientôt 34 ans, j'ai jamais pu le serrer dans mes bras. Jamais. Ça veut dire ni bise, ni accolade, rien du tout.
Vraiment ?
Carlos, si jamais vous avez envie de poser une question, on lève la main et on parle bien. Alors, tant que je n'ai pas réussi à vous voir, et surtout une des choses, c'est de prendre le micro en main et de parler devant le micro. Suzanne, on vous laisse terminer.
Et ma fille, elle s'est attachée à une autre personne.
Et quel lien vous faites avec le thème qui est de comment accepter l'indépendance de nos enfants ?
Eh bien, voilà, c'est-à-dire que ça rentre dans le thème, parce que comment arriver un jour à concevoir que ces enfants, ils sont indépendants, ils peuvent vivre leur vie. Quand l'affection a été bifurquée.
Oui, c'est vrai. Alors, on aura peut-être une réponse, une hypothèse de compréhension de la part d'Étienne. On vous écoute.
Oui, je trouve que c'est... Bonjour. Je trouve que c'est un peu triste on vous a abandonné, finalement. Moi, je voudrais relever un peu la famille, quand même. C'est quand même important, la famille. Moi, j'ai un père qui est absent. J'ai des parents divorcés. Moi, j'ai eu un accident à l'âge de 4 ans. Mon père, il ne s'est jamais occupé de moi. Il était toujours à faire ses histoires, ses trucs, ses intérêts. Puis, moi, il m'a laissé, il m'a aussi abandonné quelque part. Et puis, moi, je trouve que c'est triste, quoi. Parce que même si on devient plus âgé, puis que quand on a encore des parents en vie, une maman, un papa, il faut quand même être là pour les aimer et manifester un peu d'amour aussi.
Alors, vous avez raison, dans une famille, quand on parle d'enfants, on parle d'adultes, de parents, du lien qu'on a. Mais pour revenir à notre débat initial qui est finalement, comment arriver à laisser nos enfants prendre cette liberté ? Parce que finalement, quand on parle d'indépendance, ça peut être aussi comment accepter qu'ils grandissent, qu'ils ont moins besoin de nous. C'est vrai, on passe quand même la plus grande partie avec nos enfants de 0 à plus ou moins, on va dire 10-14 ans, où on est constamment derrière eux, on fait des choses pour eux. Puis à un moment, ils arrivent à un âge où finalement, ils disent ben non, écoute, papa, moi, aujourd'hui, j'ai envie de partir à un match de foot. Je prends l'exemple de que j'ai vécu. Hein. Ouais. Et puis je dis ok, pas de souci, tu vas à Trois-Torrents ? Ah non, je vais à Bâle. Je dis, comment ça, tu vas à Bâle, mon fils ? Il dit, oui, on s'est organisé avec des copains. Puis je dis, mais organisé comment ? Alors je dis, écoute, Noah, si jamais, moi, ce que je veux, c'est avoir un papier où il y a tout qui est organisé, planifié, parce que moi, je veux bien laisser un peu d'autonomie, d'indépendance, mais il faut s'organiser, mais ce n'est pas évident. Donc, comment on fait dans ces moments-là pour finalement laisser de la place à nos enfants qui prennent petit à petit, pas à pas, cette liberté ? Flore ?
Alors, je vais être un peu, employer un mot un peu dur, mais notre enfant peut sortir de la maison et se faire écraser par une voiture. Donc, à un moment, il faut aussi faire confiance à la vie et les autoriser, justement. Et puis, c'est important aussi qu'ils aient des copains, qu'ils fassent des choses avec, parce que ça va être aussi leur entourage d'adultes, pas que les parents. Ça va être leurs amis, ça va être leur petite copine ou leur petit copain. Et c'est faire confiance à un moment. C'est vraiment le lâcher prise, c'est de faire confiance à la vie. Et de se dire, ah non, y a ça qui peut arriver. Bah oui, ils peuvent sortir de la maison et puis ça peut arriver. Donc, c'est pas facile de prendre conscience de ces choses-là. Mais à un moment, il le faut. Et puis, je trouve au fait que le lien, il est encore plus solide. Parce qu'on leur fait confiance. Ils nous font confiance. Et le lien, il est plus fort. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont partir et qu'on ne les verra plus. Au contraire, c'est qu'il y aura toujours ce lien de dire « Oui, je peux compter sur maman ou sur papa, même si je vis ma vie, mais je ne les oublie pas. » Ils sont toujours là, c'est toujours mes parents, Mais voilà, j'ai le droit de vivre ma vie.
Mais vous avez raison en disant que finalement, laisser l'indépendance à nos enfants, c'est de leur faire confiance et peut-être les amener à faire leur expérience. Si on est toujours là derrière eux pour faire à leur place ou pour les surprotéger, bah peut-être qu'on peut avoir après peut-être plus de difficultés à rentrer en contact, à initier des projets. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Étienne, vous avez envie de rebondir?
Oui, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est aussi de faire des choses avec les enfants, en famille, partager des intérêts, aller voir un match de football ou aller voir un concert, des choses comme ça, on en parlera en fin d'émission. Mais, voilà, mais c'est important de partager des choses parce que tout seul, c'est pas évident. Moi, je suis tout souvent seul et puis j'ai envie de partager. Et puis c'est pas facile de rencontrer du monde pour partager des intérêts.
Ouais. Vous avez raison, des fois, on doit aussi accompagner nos enfants à être indépendants. Et accompagner nos enfants à être indépendants, bah, c'est aussi de les guider, puis faire des choses avec eux. Peut-être pour la première fois, de prendre le train avec eux pour voir si elles arrivent à utiliser peut-être l'automate ou à comprendre comment fonctionne finalement l'environnement dans une ville, une société. Sophie.
Oui. Alors moi, je voulais parler de mon vécu.
En fait, on vous écoute.
J'ai pu élever mes filles avant la maladie jusqu'à 2 et 7 ans. C'est pour ça que je dois apprendre maintenant. J'ai pu faire ça, mais après la maladie m'est tombée dessus et je me suis sentie vraiment coupable. Et des fois, encore maintenant, je me sens coupable. C'est comme si je les ai abandonnées en fait. Mais elles ont dit, maman, c'est pas ton choix. Donc voilà, là, je dois lâcher prise maintenant. C'est maintenant que j'apprends, depuis que je les ai laissés en famille d'accueil et la grande chez son papa. Oui. En fait.
Mais c'est aussi un message d'espoir que vous nous donnez, Sophie, parce que des fois, on se donne des intentions. On porte beaucoup un grand fardeau sur des choses parce qu'on veut toujours le mieux pour nos enfants. Et puis c'est eux, finalement, parce qu'ils deviennent indépendants et qu'ils grandissent, qui nous disent non, bah, finalement, papa, maman, non, tu n'es pas responsable de certains de mes choix ou peut-être de ce qui s'est passé dans ta vie parce qu'on ne peut pas trop maîtriser. Hein. Fleur nous l'a bien dit tout à l'heure, n'importe qui peut sortir de la maison et malheureusement avoir un accident et puis que ça s'arrête là. Suzanne.
Eh ben moi, j'ai jamais rien fait avec mes enfants. Ça vous dit quelque chose? Rien. Pas une seule chose. Ils ont bientôt 40 ans.
Alors, si je peux vous donner un peu d'espoir, Suzanne, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a quelques années en arrière, quand on est arrivé à 60 ans, on était déjà, en tout cas moi, quand je voyais mes grands-parents, je les trouvais déjà presque grabataires comme ça. Aujourd'hui, à 75 ans, on court, on soulève de la fonte. 40 ans, ça laisse encore, avec l'âge que vous avez et celui de vos enfants, ou pour ceux qui sont autour de la table, de profiter encore peut-être de voir les choses évoluer différemment et de vous rencontrer. Moi, je donne cet exemple-là j'échange avec certains patients ou même des amis, je dis mais vous savez, moi je suis parti chez mes parents, j'avais 17 ans, j'ai adoré ma mère, j'ai adoré mon père, il y avait pas mal de conflits, mais c'est vers 26, 27 que je l'ai pris dans les bras et je lui ai dit je t'aime, mais c'est pas pour autant que je l'aimais pas avant. Mais des fois voilà, et aujourd'hui il y a d'autres étapes qui se créent et qui font que bah, j'espère qu'un jour vous allez pouvoir, Suzanne, recréer des liens et retrouver un sens avec vos enfants comme Sophie l'explique. Elle le vit à travers les petits-enfants. Étienne.
Oui, et puis aussi de leur dire de faire attention à eux-mêmes, parce que moi, c'est aussi, ce qui m'est aussi arrivé en sortant, c'est de me blesser. Puis après, on peut avoir des regrets. Donc, il faut faire attention quand on prend son indépendance aussi. Il faut être prudent dans la vie, il faut faire très attention avec tout le monde, avec tout ce qu'on fait aussi.
Oui, en fait, finalement, les enfants sont indépendants parce qu'on leur donne les clés, mais il y a des choses qu'ils vont devoir apprendre par eux-mêmes. On dit souvent l'expérience, alors c'est vraiment, je ne dis pas que les enfants doivent se brûler sur la bougie pour pouvoir apprendre, mais c'est l'image de, ben voilà, mets la main une fois dans une bougie, hop, on sait que ça fait mal, ça brûle, on ne va pas le refaire deux fois. Flore.
C'est assez intéressant, là, ce que tu viens de dire, parce qu'au fait, moi, j'étais pas tellement pour les punitions, mais pour leur expliquer, au fait, les conséquences de leurs actes, plutôt de faire de la prévoyance. Après, oui, ils ont été punis au coin, parce qu'ils chamaillaient, enfin, plus petits, c'est différent, Mais plus tard, ben voilà, d'avoir créé ce lien, justement, il se confiait beaucoup à moi. Et il me parlait des petites bêtises qu'il faisait avec le copain. Et au fait, je leur expliquais juste les conséquences de leurs actes, ce qui pouvait arriver. Et là, ça les fait réfléchir. Et du coup, je trouve qu'ils vont être plus attentifs et ils vont commettre moins ils vont faire moins de bêtises parce qu'ils sont conscients qu'il y aura une sanction derrière.
Est-ce que vous pensez que ça crée, ça cultive aussi l'indépendance et puis l'autonomie de l'enfant?
Mais bien sûr, plus ils sont conscients des risques de la vie, des risques qu'ils encourent en commettant certains actes, plus ils vont être responsables, plus ils vont être déjà prudents et aussi choisir leur fréquentation et y être sur un meilleur chemin, je trouve.
Ouais, vous avez raison, Suzanne. Alors, on avance gentiment dans l'émission. On va prendre encore deux échanges, Suzanne, et on prendra après Étienne. Suzanne.
Madame, l'expérience ne sert à ceux qui les font seulement. Que à ceux qui les font. Alors, des théories, ça ne sert à rien du tout.
Alors, je pense qu'il faut allier l'expérience pratique et aussi à travers des lectures, des échanges, peut-être certains groupes. Alors, on a des... Néuza, vous avez levé la main. Ah non, ce n'était pas pour rebondir. Sophie.
Alors, moi, je veux dire à cette dame qu'elle a du courage parce que c'est pas facile, parce que moi, j'ai dû les laisser à l'âge de 2 et 7 ans et ça a été très, très dur pour moi. J'ai plus pu les embrasser après, j'ai plus pu les voir, presque plus pu les voir. Je les voyais une fois chaque 2 mois, une heure de temps sous surveillance, alors que j'ai jamais fait du mal à mes enfants. Et cette dame, elle souffre de pas avoir pu donner cet amour à ses enfants. Et je comprends bien cette souffrance.
Mais vous êtes toutes les deux courageuses de partager avec nous ce témoignage. Merci à vous, mesdames. Étienne.
Oui, il y a certainement eu quelque chose. Comme avec mon père, ce n'est pas possible de partager de l'amour parce qu'on ne se connaît pas. Voilà, on ne se connaît pas. On n'a pas partagé beaucoup de choses ensemble, peut-être une ou deux, mais enfin bref, je ne veux pas revenir sur ma vie privée. Mais c'est important le partage. C'est important. C'est important de ne pas se sentir seul.
Vous avez raison. On arrive gentiment à la fin déjà de ce premier échange pour rappeler que finalement, l'indépendance de nos enfants, oui, ça peut être très dur de les voir partir, de les voir grandir. Alors après, en fonction de toutes les histoires de vie qu'on a, mais ce qu'on doit peut-être garder en mémoire, c'est que nos parents, au-delà des soucis qu'il y a eu, c'est presque un peu normal que ce soit difficile parce que nos enfants resteront toujours nos enfants. Qu'on ait 50 ans, on venir à voir nos parents, on sera toujours le petit dernier, la petite dernière, en fonction des aléas de la vie qu'il y a eu. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte à un court instant, parce que quand on parle d'enfants d'indépendance, c'est aussi des fois faire des bêtises, c'est aussi des fois faire des rencontres, c'est de choisir des chemins différents que ceux que nos parents auraient aimé pour nous. Et pour ça, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot en parlent très bien dans leur chanson de Bonnie and Clyde.
Comment il vécu ? Comment il est mort ? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Et Clyde Barrow,
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmée.
De retour en direct sur les ondes de Pavillon Nomade après ce magnifique échange très touchant avec finalement ces expériences de vie qui des fois sont pas tout le temps évidentes, sont des fois même très confrontantes. Les enfants sont des gens très confrontants, mais la vie est confrontante en elle-même. Et puis Suzanne avait envie de nous proposer un thème qui est la suite finalement, on pourrait dire, le continuum de ce premier échange après toutes ces émotions. Et si on tournait la couverture du beau côté? Suzanne, bonjour.
Bonjour Jimmy.
Alors, qu'est-ce que vous sous-entendez par la couverture du beau côté?
C'est-à-dire, est-ce que vous permettez, Jimmy, que je trace une petite anecdote pour montrer la couverture?
Alors, allez-y, on vous écoute.
Alors, un âne, il est tombé dans un trou profond. Et puis, cet âne... Il était carrément perdu, le pauvre. Puis le fermier, il s'est demandé, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet âne? Il se posait des questions et pour finir, après réflexion, il a dit à ses fermiers, on va l'étouffer avec la terre. Parce qu'on ne sait pas comment le récupérer. Et voilà que les pelletés arrivent. Et le pauvre âne, au début, il commence à gémir sévèrement. Et ensuite de ça, il a une petite idée, parce qu'il est intelligent. Alors, il secoue son dos à chaque fois. Et puis, la terre, elle arrive sous ses sabots. Ce qui fait qu'il remonte gentiment le trou. Et les fermiers n'y voient que dalle. Parce qu'il ne voyait que la terre qui tombe sur son dos. Et voilà que tout d'un coup, le petit âne, il commence à sortir du trou. Et les fermiers disent, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? ils sont complètement ébahis. Et bien sûr, ils sont culpabilisés de tout ça. Mais le petit âne, il fout le camp en vitesse. Bien sûr, il y en a qui essayent de le rattraper ou le foutre dans le trou, mais ça n'a pas réussi. Alors, le petit âne, c'est moi. On a essayé, tout essayé, et on n'est pas arrivé à me coffrer.
Eh ben, merci pour cette anecdote qui lance un petit peu ce débat. Sophie, vous avez envie de rebondir sur ce thème, et si on tournait la couverture du beau côté ?
Oui, alors moi, j'ai des vécus assez difficiles. Je suis revenue à la vie deux fois. Voilà, je suis une survivante. Voilà. J'ai eu des maladies psychiques qui m'ont entraîné, des maladies physiques dessus. Donc, voilà, je dis, il faut voir la vie du bon côté. Comme vous me disiez, quand vous m'avez touché la main l'autre fois, Sophie, vous êtes là. Malgré tout, vous êtes là, vous marchez, vous êtes là debout. Alors voilà. Oui, maintenant, je vois la vie de ce côté-là. C'est malheureusement, j'ai des douleurs et psychiquement, je suis touchée, mais je dois avancer.
Mais qu'est-ce qui vous permet d'avancer ? Qu'est-ce qui vous a permis finalement de tourner cette couverture du beau côté ? Est-ce que vous avez comme ça des exemples ou que vous avez pratiqué qui seraient peut-être aussi une piste pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont là autour de la table ?
J'ai dû beaucoup travailler sur mon psychisme. Beaucoup, beaucoup travaillé pour me rendre compte que j'avais beaucoup évolué par rapport à des années passées ici, des hospitalisations très difficiles à vivre.
Ben merci, Eliane.
Sophie, quel a été le déclic pour vous sortir d'un état psychologique grave ?
Mes filles et mon petit-fils maintenant. À l'heure actuelle, qui a 4 ans et demi.
Ça, c'est moteur. Hein.
C'est un moteur.
Hein, oui. Étienne.
Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est pas facile. Hein. Parce que, en fait, on a des blessures, on a eu un accident, on a une maladie, et tout ça. Et puis, quand on fait connaissance avec quelqu'un. Et puis on dit voilà, je vis avec ça, j'ai ça eu comme accident et tout ça. Et puis on veut pas tout le temps qu'on nous rappelle les choses. Voilà, on l'a dit une fois, et puis voilà, c'est tout. On nous prend comme on est, et puis pas encore à nous faire penser à des choses qui nous ont fait mal.
Ouais, merci Étienne. Carlos, vous avez envie de rebondir, après on donnera la parole à Pius.
Bon, moi, dans ce sujet-là aussi, j'ai eu un petit problème de santé en 2011. Et puis, ça ne se passait pas comme je voulais. Donc, j'estime que venir des enfants, qu'on laisse la liberté. Moi, mes enfants, ils ont été toute la liberté de tout. Mais à ce moment-là, si ce n'était pas mes enfants, moi, je ne serais plus là.
Oui. Pour vous aussi, vos enfants sont source, en tout cas, d'aller vers l'avant.
Mes enfants et ma femme.
Et votre femme qui vous permet, quand vous pensez à eux, quand vous partagez, de tourner la couverture du bon côté pour vous sentir mieux, plus à l'aise.
Ouais. Voilà.
Merci, Carlos. Pius, vous avez envie de rebondir à ce thème. Et si on tournait la couverture du beau côté ?
Mesdames, messieurs, bonjour.
Bonjour, Pius.
Mes expériences de la vie sont un peu... différentes, c'est-à-dire, moi, je vois un couteau des deux côtés. D'un côté, ça coupe, de l'autre côté, ça ne coupe pas. Et comme j'ai eu l'expérience dans la vie, je me suis laissé floating, c'est-à-dire comme une feuille sur la rivière, sur un ruisseau, je me laisse balancer par les flots. Et puis, ça m'a donné les meilleurs résultats de la vie. Alors, rien ne vouloir forcer, toujours prendre ce qu'il y a et avec ça, faire quelque chose de bon. Merci.
Mais merci, Pio. C'est vrai, vous avez raison de parler finalement. Vous prenez l'image du couteau, mais on peut aussi prendre l'image de cette couverture. La couverture, suivant comment on décide de la mettre, on a des couvertures qui sont d'un côté très douces, puis de l'autre côté, elles sont un peu plus rugueuses. Et finalement, il y a des moments où on se dit, bah, tiens, finalement, qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce qui ne va pas me faire du bien? Et tourner la couverture, ça peut être déjà ça. Marine. Bonjour Marine, d'ailleurs. Ça fait plaisir de vous retrouver. Oui. Vous avez réussi à vous libérer, à nous rejoindre. Oui, ce thème vous parle?
Oui, en fait, ça me donne envie de rebondir à Pius pour son intervention que je trouve magnifique. Et justement, parfois, on se creuse la tête pour trouver comment faire dans la vie et on est beaucoup dans l'action. Et Pius, là, il nous démontre aussi que parfois, il suffit de se laisser flotter. Vous avez parlé d'eau. Moi, j'ai aussi envie de parler de vent, parfois de souffle. Et c'est vrai qu'après, je vais vous interpréter une chanson où on parle justement du vent et de comment est-ce que le vent nous traverse et nous amène vers ce qui est juste pour nous et que parfois, il suffit de se laisser porter au lieu de se creuser la tête.
Vous avez raison, Marine. D'ailleurs, on a hâte de découvrir cette chanson parce que ça aussi, tourner la couverture du beau côté, bah, c'est ce qui nous fait du bien. Et la musique a quelque chose aussi de très réconfortant. Des fois, on parle des ondes hertziennes. On parle des fois des ondes vocales suivant les intensités qui peuvent nous faire du bien. Donc, tourner la couverture du beau côté, ça peut être déjà aussi de se dire, mais qu'est-ce qui nous fait du bien ? Suzanne, vous avez envie de rebondir.
Mais vous imaginez quand même quand vous faites astiquer de cette façon dès le berceau jusqu'à maintenant, ça vous représente quelque chose ou quoi? Je sais pas. Franchement, ça n'a pas l'air de vous émouvoir.
Alors, on est ému de tous les échanges, de tous les partages qui sont là. Après, c'est chacun les ressent à sa manière. Moi, j'ai vu des regards qui soutenaient, j'ai vu des sourires, j'ai vu des attentions. C'est des moments de partage dans lesquels c'est pas tout le temps évident. En tout cas, si on tournait la couverture du bon côté, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur les pistes sonores avec Marine. Marine, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un nom à cette musique? Ou un titre ou...
La musique s'appelle Yansa et j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une chanteuse américaine qui s'appelle Danitz, qui a des origines en fait brésiliennes et qui compose souvent en espagnol ou en brésilien. Et là, cette chanson, en fait, elle a fait tout un album autour du vent qui dure vraiment plusieurs chansons. Et puis, cette chanson-là, elle est vraiment liée au vent et sur comment est-ce que l'effet du vent... aide aussi la terre à bouger. Enfin, c'est un texte très poétique, très simple que je vais vous interpréter avec le tambour. Et puis, je vais juste m'installer debout, ça sera plus simple.
Alors, merci Carlos de porter aide à Marine pour qu'elle puisse avoir le micro au niveau.
Vento na terra, vento ao sol, vento no meu coração. Vento na terra, vento ao sol, vento no meu coração. E ansa chegou, mais do movimento. E ansa chegou. Tempestade no vento e ansa transcendo balanço, renovação de pensamento e ansa transcendo balanço, transformando todo mal e ansa chegou. Tempestade no vento e ansa chegou, mas do movimento. Vento na terra, vento ao sol, vento no meu coração. Vento na terra, vento ao sol. Vento no meu coração e ansa chegou, mas do movimento e ansa chegou, tempestade no vento
I ansa transendo balanço, renova sa di pensamento. I ansa transendo balanço, transformado todo mal. I ansa chegou, tempestade naio e vento. I ansa chegou, mai do movimento.
Bravo, je pense qu'on peut applaudir Marine. Magnifique Marine, après cette chanson extraordinaire. J'espère que vous êtes calfeutré un petit moment dans cette belle couverture, ou en marchant, ou en mangeant, parce que Pavillon Nomade, on nous écoute même à l'autre bout du monde. Si vous voulez nous retrouver, c'est sur pavillonnomade.ch. Vous retrouverez l'intégralité de toutes nos émissions et celle d'aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, le quartier culturel de Malévaux est un oasis discret, posé entre les murs de l'hôpital et les collines du Chablais. Ici, on accueille celles et ceux qui traversent des périodes de fragilité, en leur offrant des espaces pour reprendre pied, retrouver un rythme ou simplement être. On y cultive des fleurs, des légumes, des petits fruits, mais aussi la patience, l'intention et le respect du vivant. La permaculture y guide le geste, une manière douce de prendre soin de la terre, de sa biodiversité et des humains qui le travaillent. Nous sommes en compagnie de Guillaume Mudry, bonjour.
Bonjour.
En compagnie de Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre. Et de Benoît.
Bonjour, enchanté.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, messieurs. Guillaume, pour commencer, pourriez-vous nous dire ce que c'est un jardinier maître socioprofessionnel, parce que je crois que c'est votre titre, hein, et d'où venez-vous, excusez-moi.
Alors, moi, je viens de Sierre, en Valais. Maintenant, j'habite sur le canton de Vaud, en montagne. Donc, j'ai passé le Rhône. Et donc, jardinier, maître socio-professionnel, c'est-à-dire que donc, c'est un apprentissage d'horticulteur. Et ensuite, c'est une formation en emploi afin d'accompagner des personnes en difficulté sociale donc à travers le jardin, à travers le métier d'horticulteur.
Merci, merci Guillaume. Alors, comment est né ce jardin permacole ici à Malévaux ?
Alors, il est né grâce aux ambitions de Gabriel Binder, donc le directeur du quartier culturel, et grâce à sa persévérité pour pouvoir agrandir le projet du quartier culturel. Et donc, il y avait ce terrain à l'entrée du site qui était libre. Et afin de pouvoir créer ce projet agriculturel, il fallait avoir donc une base horticole. Donc voilà, il est né comme ça, après plusieurs années de discussions et de projets. Et puis, donc c'est Alex Caulfield, mon collègue, qui a lancé le projet vraiment pratique. Donc, qui a commencé à élaborer des plans pour le design, et puis à choisir les plantes qu'on allait installer sur place.
Merci. Et pourquoi le choix de l'approche permacole pour ce jardin ?
Alors, la permaculture, c'est vraiment... C'est toute une ambiance. Hein. Ce n'est pas qu'au jardin que ça se passe. C'est un style de vie. C'est la culture permanente. Donc, autant des plantes, mais de tous les êtres vivants, en fait. Donc, les humains aussi, quoi.
Et merci. Eliane, vous aviez une question à poser.
Oui, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce jardin ?
Alors, je dirais que ça part aussi, c'est très familial. Donc, mon père est horticulteur, maître socio-professionnel, aujourd'hui retraité, mais c'est depuis tout petit, on fait des boutures à la maison, on soigne des plantes, on récolte des tomates. Donc, j'ai été quand même baigné dedans depuis tout petit. Et puis voilà, je dis toujours ce métier aujourd'hui ici, c'est vraiment le métier que j'aurais inventé si je devais inventer un métier. Donc il y a tout qui est lié, il y a le côté horticulture, le côté social et le côté culturel qui se trouve ici. Donc c'est vraiment ces trois choses qui sont alignées. Voilà. Donc on ne trouve pas ça partout.
Benoît et Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter brièvement, Jean-Pierre.
Me présenter ?
Oui.
Alors, moi, je m'appelle Jean-Pierre. J'ai commencé les ateliers il y a à peu près 6 mois. Mais je n'ai pas tellement fait de la permaculture. Je suis plutôt à l'atelier artistique.
D'accord.
Et bah, ça me plaît bien de pouvoir avoir ces 2 journées où je m'échappe un peu de ce qu'il y a dans ma tête et je rentre dans la démarche des artistes. C'est vraiment quelque chose d'intéressant qui me motive pas mal, quoi.
Et Benoît ?
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bonjour Benoît.
Moi, à la base, je suis polymécanicien. Ça fait un petit moment que je suis en recherche d'emploi et du coup, on m'a proposé de venir ici. Et j'aime beaucoup le jardin. Mes grands-parents faisaient beaucoup de jardinage. On avait déjà des potagers à la maison. Du coup, ça me ramène un peu à cette époque-là et ça me permet aussi de sortir, voir du monde.
C'est sur appel, ce genre de candidature ou...
Non, c'est un placement du social.
Un placement social.
Actuellement, d'accord. Je suis au social en charge d'emploi et le social m'a proposé ce poste pour reprendre un travail, reprendre un rythme et faire quelque chose, en fait, pas juste rester à stagner à la maison. Et...
Merci beaucoup.
Sophie, vous aviez aussi une question à poser, on vous écoute.
Alors, bonjour à tous les trois. Guillaume. Quel type de plantes cultivez-vous ici et que deviennent-elles ensuite ?
Alors, on cultive toutes sortes de plantes potagères, c'est-à-dire des tomates, des courgettes, des aubergines, des poivrons, des piments. On cultive aussi des herbes aromatiques, de la sarriette, de la verveine, de la menthe et d'autres plantes aussi plus exotiques, comme par exemple le wakatai, c'est une tagette qui vient d'Amérique du Sud. Donc, on cultive aussi beaucoup de petits fruits, nèfles, résinés, groseilles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un résiné, des framboises, des mûres, etc. Donc, on cultive tout ce qui se mange, tout ce qui est possible de cultiver sous nos latitudes. Et puis, toutes ces récoltes sont transformées dans le laboratoire du quartier culturel, donc sous différentes formes. En sirop, en confiture, au vinaigre et on fait des fermentations aussi, des lactofermentations. Donc tous ces produits sont préservés à travers différentes manières.
Merci, en tout cas ça donne envie de découvrir. Sophie, vous avez envie de rebondir, on vous écoute Sophie.
Oui, je voulais demander à Guillaume, qu'est-ce que le nakatai ?
Alors c'est le wakatai. Voilà, on n'est pas loin. C'est une plante annuelle de la même famille que les tagettes. Vous connaissez les œillets d'Inde aussi, un autre nom qu'on utilise, donc qu'on plante en bordure de potager. Mais c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud, donc plutôt Mexique, Pérou, par là autour. Puis c'est une plante qui a atteint les 2,50 m de haut. Donc c'est son feuillage qui est intéressant. C'est un feuillage très aromatique. Donc, on peut en faire des marinades, un peu d'huile d'olive, de l'ail, du piment, etc. Libre choix d'ingrédients. Et puis, nous, on fait un produit phare du quartier culturel, donc le sirop wakatai à base de citron vert, voilà, avec une infusion de feuilles.
Ça donne envie de découvrir tout ça. D'ailleurs, je crois qu'on peut découvrir ça en vente à la buvette du quartier culturel.
Oui, alors à la buvette et à l'épicerie du quartier culturel, là, vous retrouvez tous les produits de saison et momentanés. Et puis, on est aussi sur les marchés. Donc, le mercredi matin, sur la place Tübingen à Monté. Et puis... au marché de Noël a monté aussi. Voilà, donc là, on a une présence annuelle.
Eh bien, c'est bien. Bah, Suzanne, vous aviez une question à poser.
Oui, à Jean-Pierre. Dans quel domaine artistique exercez-vous ici ?
Alors, il y a plusieurs artistes qui travaillent, qui ont travaillé ici. Alors, à un moment donné, j'étais avec Noé, où j'ai beaucoup aimé travailler sur des grands formats, des affiches de... comme les affiches publicitaires à l'extérieur, où j'avais jamais dessiné sur des grands formats comme ça. J'ai beaucoup aimé faire cette démarche. Après, ben, il est parti en vacances. On a travaillé avec une personne qui fait de la gravure. Ça aussi, j'ai bien aimé faire de la gravure sur lino. On utilise des petites gouges pour enlever de la matière. Ensuite, on encre le lino et puis on, en plaçant un papier par-dessus, on peut faire des impressions avec, ce matériel. Ce qui me plaît aussi, c'est toutes ces techniques, je me les approprie. Et aussi, je m'occupe à la maison à faire des techniques comme ça, parce qu'on a utilisé beaucoup le néocolore, par exemple. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de nuances avec le néocolore. Et c'est quelque chose qui me plaît bien, de pouvoir me l'approprier, de continuer à la maison ce que j'apprends ici. Quoi.
Mais merci, on appelle ça des transferts de compétences. Étienne, vous aviez une question à poser aussi à nos participants aujourd'hui qui sont là au jardin permacole. On vous écoute.
À quoi ressemblent vos journées au jardin?
Ah, ça, c'est une question intéressante. À quoi ressemblent les journées, une journée type au jardin? Parce que j'imagine que ça doit commencer tôt ou pas.
Non, on commence à 9h au jardin. Donc une journée type, en général, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Soit il y a beaucoup de récoltes en ce moment de petits fruits, framboises, coquillamelons. Beaucoup d'escargots aussi qui se promènent. Des cornichons, beaucoup de récoltes en ce moment. Au début de la saison, quand je suis arrivé, ça fait à peu près 3 mois maintenant. C'était beaucoup replanter les plantes qui étaient sous serre, les laisser pousser avant de les remettre en terre. Beaucoup d'arrosage, d'entretien aussi sur les parcelles. Vérifier que tout va bien, que... Ouais, justement, qu'il n'y ait pas trop d'escargots. On fait beaucoup de choses. Et suivant les journées, on n'est presque pas au jardin, justement à cause des récoltes, où là, on doit aller effectivement en cuisine pour tout transformer et puis préparer les sirops, les bocaux.
Ouais, donc il y a une journée où vous êtes la main dans la terre, et puis une après-midi comme on l'avait dit, lors d'un des congrès de l'ISPS, de la graine au bocal. Il y a tout dans une journée s'articule ces deux entités qui permettent à la troisième d'être dégustée. Guillaume, j'ai une question pour vous. Au-delà des plantes, en quoi ce jardin est-il un espace de soins et comment accompagnez-vous les nouveaux arrivants?
Alors, je dirais que c'est un espace de soins, c'est-à-dire qu'on passe du temps vraiment dans les cultures. Donc, on apprend à être bienveillant aussi face aux différentes plantes et soins qu'on doit apporter aux plantes. Donc, le fait de penser à d'autres êtres vivants, c'est aussi penser à soi-même. Et c'est là que je pense que le jardin a cette faculté-là d'accompagner aussi des gens qui sont en difficulté momentanée. Donc, le jardin, il a un rythme particulier. Il peut être très rapide. Donc, une graine peut germer rapidement. On en voit les effets très vite. Mais il peut avoir un rythme aussi lent, donc comme tu l'as dit, Jimmy, de patience aussi. Et puis justement, de patience. On plante un arbre, on n'a pas des fruits la semaine d'après. Donc, ça apprend aussi ça, être résilient face aux changements, à la météo, des fois d'attaques d'insectes potentielles sur certaines cultures. Donc, c'est ça, en fait, c'est s'adapter, réussir à s'adapter à travers d'autres êtres vivants. Donc, c'est ça, c'est collaborer aussi avec la nature.
Mmh, merci pour cette super réponse, hein, cet espace finalement qui est entre soi et l'autre. J'ai beaucoup aimé d'apprendre à être patient, d'apprendre à s'occuper d'une plante, d'un être vivant. Bah, c'est aussi prendre conscience le retour qu'on peut faire pour soi-même. Eliane ?
Qu'avez-vous appris depuis que vous êtes là ?
Pardon ?
Il y avait un petit tracteur qui passait.
Ouais, une petite question. Alors, Benoît et Jean-Pierre, la question, elle vous est adressée directement.
Vous adresse aux trois. Qu'avez-vous appris depuis que vous êtes là, à Malévo?
Alors, énormément de choses, mais je pense j'ai beaucoup appris sur moi-même aussi, déjà assez rapidement. Donc, j'ai appris et j'ai confirmé qu'en fait, que la gentillesse, c'est quelque chose de très important, et donc être bienveillant face aux autres et accepter les qualités et les défauts de tout le monde, voilà, ça c'est...
Et pour Benoît et
Moi, depuis que je suis là, j'ai pas mal appris justement sur les plantes et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire chez moi, même en pot, plutôt qu'aller en magasin ou en marché ou comme ça. Et là, depuis, ça fait quoi, un mois, deux mois, j'ai planté quelques plantes sur mon balcon qui commencent gentiment à me donner... Les framboises donnent pas de fruits pour l'instant. J'ai planté de la menthe et des piments qui ont l'air de bien apprécier là où ils sont. Et ça me permet justement de réduire aussi un peu mes frais en magasin. Alors ça me coûte un peu plus peut-être en entretien et en temps, mais d'un autre côté, j'ai gagné beaucoup de choses. Et j'apprends à reconnaître aussi d'autres plantes que je connaissais pas forcément.
Merci. Et Jean-Pierre, vous ?
Ben, je pensais que ce serait difficile pour moi de rentrer dans une démarche artistique, mais finalement, ça m'a donné plus de confiance en moi par rapport à cette histoire-là. J'ose plus faire des choses, et puis je vois que c'est comme tu as dit avant, je peux transposer cette confiance que j'ai eue dans la démarche artistique dans d'autres domaines aussi. Donc c'est intéressant, très intéressant pour moi.
Eh ben merci. Alors, on a une question. Rappelez-moi votre prénom, parce que je ne l'ai pas devant les yeux, je suis navré.
Christine.
Bonjour Christine.
Je voulais savoir quand c'est qu'il faisait la boucherie du cochon.
Alors, ça a l'air de plus vous parler à vous que moi. Jean-Pierre, vous avez le micro en main.
Je garde un jambon.
Quand est-ce qu'on tue le cochon ? Moi, j'avais déjà proposé ça à Guillaume, mais il n'a pas l'air très enthousiaste.
D'ailleurs, il en reste encore un. Hein, parce que pour l'anecdote, il y en avait deux, hein, Guillaume, à la base.
Oui, il y en a une qui est partie l'année passée. Et puis pour celle qui reste aujourd'hui, donc c'est drôle, j'ai eu une discussion ce matin avec Marie-Laure qui s'occupe de la floriculture, donc qui s'occupe des plantes du parc. Et donc on en est venu au point qu'il est déjà assez âgé, ce cochon. Donc peut-être qu'il va terminer sa vie ici. Avec loyauté.
En bronze.
Et voilà.
On aura certainement, Guillaume, l'occasion d'en parler début automne ou mi-automne, quand on aura cette rencontre avec Bruno et ça y est, je perds mon latin.
Marie-Laure.
Et Marie-Laure. Ouais. Je pense que ça va être de beaux échanges. Peut-être qu'on aura d'autres anecdotes au niveau de ces cochons. Flore, vous aviez.
Ils font du canard laqué ou du cochon laqué, c'est que la peau. C'est excellent.
Ouais, c'est délicieux.
J'ai
d'ailleurs.
J'ai encore une autre question horrible. Est-ce que vous faites la culture du mildiou, donc des vers de terre ?
Alors, le mildiou et les vers de terre, c'est deux choses différentes. Le mildiou, c'est un champignon.
Oui, puis mais moi, j'avais un beau frère qui mettait dans un élevage de vierges tous les excréments et ça faisait quelque chose de très, très... ça faisait bien pousser les légumes.
Ouais, non, c'est possible. Tout le monde a ses techniques. Non, nous, on évite de faire ce genre de macération de vers de terre. On les préfère dans le compost et vraiment vivant dans la terre. Quoi.
Histoire d'aérer la terre, voilà, d'aérer le compost, nourrir, de le nourrir. Ouais. Flore, vous aviez une question à poser.
Oui, bonjour à vous trois. Déjà, je suis admirative de ce que vous faites, parce que c'est pas toujours évident, hein, les métiers de la terre, mais c'est un métier qui est très noble. Voilà. Alors, ce jardin a-t-il changé quelque chose dans votre vie ?
Oui, il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, j'ai pu revenir à mon métier de base que j'avais quitté pour me retrouver dans un autre domaine où j'ai beaucoup appris aussi. Mais revenir ici, c'est vraiment apprendre les bases, réapprendre les bases et puis expérimenter aussi beaucoup la culture. Donc ça permet vraiment de réussir à boucler la boucle. Donc on part du bocal, du bocal où il y a les graines à l'intérieur. Oui. Et puis, on finit avec un produit terminé, prêt à être dégusté. Donc, ça, c'est vraiment une grande chance que j'ai d'être ici. C'est le fait de pouvoir expérimenter tout ça.
Et pour Benoît et Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez finalement, à la même question que Flore a posée, parce que c'est une question très intéressante, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie ? Ah, vous avez le droit de réfléchir hein, ou de passer la main.
J'ai surtout des réserves de lactofermenté à la maison maintenant. J'ai toujours quelque chose à manger. Oui, ben, comme j'ai dit, ça me prend deux demi-journées dans la semaine. Je sais que j'ai ça à faire et puis que ben, ça me donne quand même un objectif, un but, quelque chose à des gens à voir. Ça m'apprend aussi à travailler un peu en équipe. On a des projets où on est en groupe. Et ça, c'est intéressant de ne pas être tout le temps dans son coin, quoi.
D'ailleurs, Enya avait une question par rapport à... Vous avez parlé d'être en groupe, d'être avec les autres. Eliane ?
Oui, comment décririez-vous la dynamique de groupe dans le jardin ? C'est toi, le jardin. Plutôt Benoît ou...
D'ailleurs, dans le jardin, j'imagine que vous êtes aussi... Il y a aussi des femmes qui sont certainement... qui participent au jardin. Comment se passe la dynamique entre vous, entre garçons-filles, et même dans une journée ?
La dynamique du groupe ? Non, moi, je pense qu'on est assez égaux au jardin, en gros. On essaye toujours de travailler de concert pour pas se marcher sur les pieds ou s'entraider vraiment quand on a besoin de faire des récoltes sur des choses vraiment particulières comme c'est quoi qu'on avait récolté les fleurs, la camomille, ouais, où là c'est beaucoup plus facile d'être à plusieurs et de pas se marcher dessus et justement de s'entraider plutôt que, ou même pour les récoltes des petits fruits, les framboises, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et non, il y a une bonne entente, je pense, actuellement dans l'équipe jardin.
Eh ben, c'est un joli mot de fin. Merci, messieurs, en tout cas, d'être venus. Notre balade au cœur du jardin permacole de Malévo touche à sa fin. Ce que nous retiendrons dans cette immersion, c'est qu'au-delà des plantes et des saisons, ce jardin est avant tout un espace de rencontre, un lieu où l'on cultive autant la terre que le lien à soi et aux autres, à la nature. À travers les témoignages que nous avons entendus, une chose est claire. Ici, chaque geste a du sens. Chaque semis, chaque récolte, chaque moment partagé contribue à un équilibre fragile, mais profondément humain. Merci Guillaume, merci Jean-Pierre, merci Benoît, merci d'avoir pris le temps de partager avec nous et de nous avoir fait découvrir un petit peu de ce jardin culturel et notamment cette approche de la permaculture. Si vous avez envie d'approfondir, vous pouvez aller sur le site du quartier culturel. Vous avez aussi des informations comment venir participer aussi à cette aide à la réinsertion sociale, parce que c'est ce qu'il en est aussi. En tout cas, merci pour ce travail. Merci pour votre témoignage. Étienne, vous aviez une chanson que vous vouliez dédicacer.
Oui, c'est le Silencers de Will McCoy. Il sera en concert le 12 septembre prochain à Annemasse, un concert à ne manquer sous aucun prétexte. Une chanson de Glasgow de Will McCoy.
Et voilà, notre émission touche gentiment à sa fin. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct ici. Je remercie tous nos participants du jour d'avoir partagé et témoigné. Un petit agenda des activités du quartier culturel, parce qu'on est au début du mois, et de rappeler que le lundi, il y a l'improvisation théâtrale avec Frédéric Lugon. Mardi, les tarés des tarots avec Stéphane Lévy. Mercredi, les tarés des tarots à Stéphane Lévy. Alors lui, il a de la chance, il est deux fois dans la semaine. Jeudi, vous retrouvez Pavillon Nomade à 15h ici pour la préparation 15h. 14h30 en direct. Et les vendredis, il y a la peinture avec Lémy Gontier et le karaoké avec Robin Loretan et Mathéo Micheline. D'ailleurs, ça me permet de saluer aussi Pascal Vigolo. Pascal Vigolo qui, à l'heure actuelle, est en train de préparer un festival fantastique qui s'appelle le Festival du Chat Blues à Monté, un événement musical gratuit. Hein, de rappeler, c'est quand même 100% gratuit, qui aura lieu le 8 et 9 août. Au menu de cette 7e édition, 3 concerts par soir proposant un savoureux mélange entre blues traditionnel et blues rock moderne dans une ambiance conviviale et festive. Les festivaliers pourront aussi profiter d'un stand gourmand, de food truck, un bar bien sûr, et même un espace vinyle pour les amateurs de galettes, j'ai cru entendre, et pour les plus musique addicts, la soirée continue avec des jam sessions animées dans les bars de la ville. Alors réservez votre week-end, c'est ce week-end 8 au 9 août, laissez-vous porter par les rimes du blues et du Chat Blues Festival à Monté. On vous souhaite à Pascal Vigolo, cofondateur du Chat Blues Festival, et tous les bénévoles un bon festival. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt et à la semaine prochaine.